Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Après Mossoul en Irak, Raqqa en Syrie, l'État islamique, déjà très affaibli dans son bastion syrien, est en passe de subir une nouvelle défaite militaire. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par Washington, s'apprêtent à lancer leur offensive finale sur la ville, offensive dont l'issue ne fait guère de doute. L'État islamique n'est pas encore vaincu, les attentats qu'il a revendiqués à Damas en ce début de mois le prouvent, mais il a perdu de sa force, combattu qu'il est par la coalition internationale menée par les États-Unis, l'opposition syrienne, le régime de Bachar el-Assad et les deux principaux soutiens de celui-ci, la Russie et l'Iran. Qui aurait cru d'ailleurs, au moment du déclenchement de la guerre en 2011, qu'on parlerait encore, 6 ans plus tard, du régime de Bachar el-Assad ? Contre toute attente, le président syrien est toujours en place et rien n'indique qu'il en sera autrement à moyen terme. La France, par exemple, qui avait fait de son départ un préalable indispensable, a fini par assouplir sa position, tout en appelant à ce qu'il soit jugé un jour pour les crimes commis pendant cet interminable conflit. Alors Bachar el-Assad a-t-il gagné la guerre ? C'est la question que nous allons poser ce soir à 3 invités, à commencer par vous. Manon Nourtanous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous présidez le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, vous êtes enseignante à Sciences Po, j'oublie aussi des fonctions...
Et
dentaire, l'AFRS,
oui.
Fondation pour la recherche stratégique, et vous publiez dans quelques jours, ce sera mercredi prochain au PUF, Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes depuis 1946, un ouvrage préfacé par Henri Laurence. Pour discuter avec vous, Firas Kontar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, opposant au régime syrien, vous êtes membre du groupe Souria Ouria, contributeur du blog Un œil sur la Syrie, le dernier article que vous avez publié s'intitule Quelle paix pour la Syrie. Et puis troisième invité, il est au téléphone depuis Washington, il s'agit de Fabrice Balanche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, spécialiste de la Syrie, maître de conférences à l'université Lyon 2, mais actuellement chercheur invité à l'université de Stanford. Alors je vous rappelle donc à tous les trois la question de ce soir, ainsi qu'à nos auditeurs évidemment. Bachar el-Assad a-t-il gagné la guerre ? Mais peut-être avant de s'intéresser à celui ou à ceux qui sont en train de gagner, peut-être faut-il commencer par ceux qui sont manifestement en train de la perdre, à savoir les combattants de l'État islamique. Bataille donc qui s'annonce décisive dans les prochains jours dans la ville de Raqqa. Est-ce que ça veut dire que la guerre, en tout cas contre Daesh, d'après vous, Firas Kontar, est en train d'être gagnée en Syrie ?
Oui, la guerre contre Daesh n'a, en fait, en réalité, n'a jamais été le problème pour les Syriens. Daesh a tué en nombre de civils, en nombre de Syriens civils depuis le début du conflit, depuis 2011, a tué 5000 Syriens civils. Et là, je parle de civils. Quand vous regardez les chiffres de mars 2011 à mars 2017, qui sont des chiffres de différentes ONG, on a 210 000 civils qui ont été tués en Syrie, dont 190 000 par Bachar el-Assad. Donc cette volonté de vaincre Daesh... C'était juste une volonté politique qui manquait aujourd'hui. C'était une volonté de ne pas s'ingérer dans le conflit syrien qui manquait et sur lequel aussi a traîné Bachar el-Assad parce qu'il a favorisé durant très longtemps Daesh pour n'avoir en face de lui que Daesh et dire que c'est moi ou le chaos, c'est moi ou les extrémistes.
Donc vous diriez que c'est une dimension mineure du conflit syrien ?
Ça, pour les Syriens, c'est une dimension mineure. Pour les Syriens, le problème, c'est d'arrêter la tuerie et le responsable de la tuerie, c'est Bachar el-Assad qui est responsable de 90% des civils morts. Le chiffre est là, 190 000 morts, responsabilité d'Assad, 5 000 de Daesh. Donc c'est un problème pour les Syriens, Daesh n'est pas un problème, c'est un des problèmes, mais ce n'est pas le problème.
Alors j'aimerais savoir, avec Manon Nourtanous et avec Fabrice Balanche, si vous êtes d'accord avec cette première analyse, Manon Nourtanous.
Oui, je dirais que l'État islamique en Syrie, c'est le symptôme d'une crise qui dure depuis 6 ans. C'est un symptôme que l'Occident est décidé à traiter depuis 2014-2015 au sein d'une coalition. La seule action occidentale en Syrie, c'est contre le terrorisme. Il n'y a pas de politique au-delà qui traiterait des origines de la crise, à savoir le soulèvement d'une partie des Syriens contre une dictature. Et je crois que si le terrorisme est au cœur des stratégies actuelles, c'est parce que c'est devenu le dénominateur commun autour duquel occidentaux, russes semblent trouver un accord. Il me semble que c'est un accord de façade. Et on voit bien que chaque pays a des narratifs stéréotypés qui n'ont pas de lien, encore une fois, avec la crise, mais qui se retrouvent sur cet impératif de combattre le terrorisme, qui est une priorité pour nos pays, on le comprend bien.
Est-ce que du coup, ça pourrait avoir comme effet peut-être un peu pervers qu'une fois que l'on considère que Daesh, sans avoir été éradiqué, mais enfin en tout cas globalement neutralisé d'un point de vue militaire, on puisse considérer de l'extérieur que le conflit syrien est, si ce n'est réglé, mais enfin en tout cas considérablement apaisé?
Si on le fait, c'est une grave erreur d'analyse sur ce qu'est ce conflit-là. Le recul de Daesh, pour le moment combattu uniquement sur le plan militaire, laissera des zones vides sur le plan politique. Et là, il faudra très sérieusement envisager l'administration de ces territoires, à qui on les confie, à un pouvoir qui doit être légitime si on veut que de nouveaux phénomènes du type djihadiste ne réapparaissent pas. Ça demande une réflexion un petit peu plus complexe, de long terme et politique.
Fabrice Balanche, sur ce que représente justement cette bataille contre l'État islamique aujourd'hui, dans le cadre plus large de ce conflit syrien qui dure depuis plus de 6 ans.
Oui, enfin, il faut déjà souligner que Daesh, c'est pas seulement un phénomène syrien. Hein. C'est Daesh est né en Irak et il a profité de la crise syrienne pour venir s'implanter à l'époque sous couvert d'Al-Nofra. Dans le nord de la Syrie. Et puis ensuite, vous avez eu cette guerre entre djihadistes qui a fait que Daesh a pris son indépendance durant l'hiver 2013-2014 et s'est installé dans le nord-est de la Syrie. Que Daesh ne soit pas un problème pour les Syriens, enfin pour ceux qui habitaient à Raqqa, qui habitent à Raqqa ou dans les zones tenues par Daesh, c'était quand même un problème. Dans la zone en Syrie centrale vous aviez une poche de Daesh également, les gens vivaient sous la crainte des raids de l'État islamique. Ils ont massacré pas mal de monde dans la région, et puis il y a toujours ces attentats qui frappent la Syrie et qui sont orchestrés par Daesh. Donc c'est pas un problème minime. Effectivement, il y en a d'autres. Il y a aussi le problème d'Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham, qui est présent dans l'ouest de la Syrie, qui aujourd'hui est la principale force au sein de l'opposition militaire, puisqu'il compte plus de 30 000 combattants, dont seulement déjà 20 000 dans la province d'Idlib, qui sera le prochain gros chantier, prochaine bataille importante lorsque le problème de la Syrie sera résolu. Alors Daesh, Al-Qaïda, effectivement, si on élimine Daesh de cette région, se pose le problème de la gouvernance. Le régime syrien au sud de l'Euphrate, les Kurdes au nord de l'Euphrate, quid des tribus arabes locales, des populations locales, dans quel camp vont-elles aller? Pas sûr qu'elles apprécient beaucoup à la fois le contrôle des Kurdes, à la fois effectivement le contrôle de l'armée syrienne renforcée par le Hezbollah. Mais tout dépendra de ce que vont faire les États-Unis dans la région, s'ils vont plier bagages après la reprise de Raqqa, ou rester davantage. Mais vu les échos à Washington, je pense plutôt qu'ils vont plier bagages, et à ce moment-là, restera l'armée syrienne, l'Iran, la Russie pour gérer ces territoires.
Firas Kantar.
Oui, juste, je n'ai pas dit que ce n'était pas le problème, j'ai dit que c'est un problème. Et ce problème découle de la présence du régime Assad. Jusqu'à la prise d'Alep, avant, toutes les frappes, 90% des frappes du régime Assad étaient orientées sur la rébellion. Il ne s'est jamais attaqué à Daesh. Aujourd'hui, qui reprend de la poil de la bête, il veut apparaître sur la scène internationale comme l'homme qui lutte contre l'État islamique. Or, c'est lui qui a favorisé l'État islamique. C'est lui qui a sorti les djihadistes, les chefs de l'État islamique, de ses prisons. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui, en 2008-2009, aidait les djihadistes à aller en Irak lutter contre l'occupation américaine. Il avait ouvert les portes de Damas pour que les djihadistes se retrouvent en Irak et luttent contre l'occupation américaine. Pour lui, Daesh est un outil et il le favorise. Et tant qu'on n'en aura pas fini avec le régime Assad, on aura Daesh. Il existera sous une autre forme. Aujourd'hui, on a vu hier un attentat à Damas. Ça veut dire que si on lutte et on gagne militairement du
attentat,
territoire...
On peut difficilement dire que le régime favorise un groupe qui commet des attentats là où il est le plus fort.
Tout à fait. Mais ce que je veux dire, qu'aujourd'hui, si on pense qu'on peut lutter et qu'on peut regagner du territoire militaire face à Daesh, l'esprit Daesh est là. On ne peut pas s'en débarrasser tant que le régime qui favorise cette haine, la haine des communautés, est là. C'est-à-dire que tant que ce régime sera là, il y aura une inégalité, il y aura une haine par les crimes qui sont commis par ce régime, qui favorisera l'émergence de nouveaux recrues, des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont perdu leurs frères, des gens qui ont vu leur maison tomber sous les bombes barils du régime syrien, des gens qui ont vu des hôpitaux et des maternités se faire détruire par l'aviation russo-syrienne. Aujourd'hui, les attentats, on le voit, c'est une nouvelle forme de résistance de Daesh qui prend forme. Deux attentats en 15 jours à Damas, ça veut dire que même si on gagne du territoire, Daesh restera là, présente, tant qu'il y aura ce Assad qui sera là et qui attisera toute la haine dans la région, la haine des communautés sur laquelle surfe Daesh aujourd'hui très fortement.
Alors laissons peut-être justement l'État islamique un peu de côté à présent, non pas que ce soit un sujet qui soit anecdotique, mais pour évoquer justement cette place du régime. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, en tout cas sur le plan militaire, sur le terrain, le rapport de force aujourd'hui, Manon Nourtanous, est clairement en faveur du régime syrien?
Oui, évidemment, je pense qu'il y a un avant et un après Alep. Alep, donc la reprise de la ville par le régime et par ses alliés, c'est le résultat d'un an d'action militaire du régime, de la Russie, qui est intervenue massivement et directement sur le terrain. La chute d'Alep, c'est l'alignement de tous les acteurs internes et externes sur la lutte contre le terrorisme. Donc l'opposition entre l'opposition justement et le régime est mise de côté au second plan. Et puis c'est le renforcement décisif des forces du régime. On voit qu'il est en train d'avancer maintenant à Raqqa, Deir ez-Zor, d'étouffer ce qui reste de l'opposition dans le sud du pays, et à Idleb, l'opposition étant elle-même étouffée par des groupes djihadistes dans cette même localité. Maintenant, est-ce que c'est une victoire du régime ? Je ne suis pas sûre. Enfin, le régime seul ne représente plus grand-chose. Le régime sans ses parrains n'aurait évidemment pas pu reconquérir ses territoires. Des pans entiers de
Mais de la
sa
même manière, peut-être que l'opposition ou certains groupes, comme par exemple les combattants kurdes, n'auraient peut-être pas pu reconquérir certains territoires sans leurs parrains également.
C'est-à-dire qu'il y a
toujours besoin d'alliés, en tout cas, quand on est dans un conflit.
Oui, mais dans le conflit qui opposait le régime à son opposition, l'opposition n'a pas eu d'alliés. Donc ça a été vraiment la différence majeure. La détermination des alliés du régime, russes et iraniens, a très clairement changé le rapport de force. Et le régime, en ce moment, est évidemment en train de gagner sur le terrain. Maintenant, la question qui se posera, ce sera comment est-ce qu'il transformera ça sur le plan des négociations. Et là, on sera dans une situation beaucoup moins simple.
En tout cas, donc, rapport de force favorable, clairement, au régime syrien. Mais pour autant, ça ne signifie pas que le régime a gagné la guerre. Est-ce que vous partagez cette analyse, Fabrice Balanche?
Bon, le régime a gagné la guerre, c'est très clair. Bon, évidemment, je sais que ça fait pas plaisir à l'opposition syrienne, à ceux qui ont affirmé que le régime allait tomber après 3 mois. Souvenez-vous des discours en 2011-2012. Ceux qui prétendaient que les Russes, en juin 2015, et là je cite Le Monde, abandonnaient la Syrie, etc. Enfin, il y avait une erreur d'analyse grossière dans ce qu'était la révolte syrienne et puis sur la géopolitique internationale.
Enfin, vous dites que c'est très clair que le régime a gagné la guerre. En quoi c'est clair? C'est-à-dire quels sont les indicateurs qui, pour vous, vous permettent d'être aussi affirmatif?
Bah, d'un point de vue géopolitique, tout va en faveur d'Assad. Il est clair que les États-Unis ne vont pas continuer à même soutenir les Kurdes très au-delà de Raqqa et de l'élimination de l'État islamique. La Turquie s'est rapprochée de la Russie et de l'Iran, et aujourd'hui l'armée syrienne peut avancer tranquillement du côté de Deir ez-Zor parce que la Turquie menace l'État Hayat Tahrir al-Sham d'une intervention dans la région d'Idlib, c'est-à-dire neutralise aussi ses proxys dans cette zone, ce qui permet à l'armée syrienne de se concentrer sur l'Est et de ne pas être obligée de se battre sur deux fronts à la fois. Ça, c'est extrêmement clair. La bataille d'Alep, c'était très intéressant parce que en échange de l'intervention turque entre Azaz et Jarablus pour empêcher les Kurdes d'assurer la continuité territoriale entre Afrin et Kobané, eh bien les Turcs ont retiré leur soutien à la rébellion à Alep, permettant ainsi à la Russie. aussi à l'armée syrienne d'en finir plus rapidement avec la rébellion. Hein, en trois mois, à partir de juillet, c'était terminé. Ça a été une très 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 vite. Donc d'un point de vue, si vous voulez, de la géopolitique internationale, à moins d'un accident majeur. Coup d'État en Russie, changement de régime à Téhéran, enfin, voilà, quelque chose de cette ampleur, je vois pas ce qui peut changer la donne.
Donc là, on est sur le terrain militaire, on va aller après sur le terrain de politique.
Et donc, le terrain intérieur, ensuite sur le terrain intérieur, bon, ben, l'armée syrienne a repris en quelques mois, comment elle a doublé la surface de son territoire. Bon, vous me direz, c'est du désert, effectivement, ça a été vite dans l'Est. Mais les tribus arabes de l'Est, par exemple, elles voient bien dans quel sens va le combat. Donc, elles se rallient, et c'est grâce à ça que l'armée syrienne peut progresser assez facilement dans la région de Derzor.
Donc, vous Fabrice Al-Balanche, vous nous dites, donc, le régime syrien a gagné la guerre sur la question, sur le terrain, en tout cas, militaire. On va aller dans un instant sur la question politique, qui est évidemment essentielle, mais juste pour avoir votre avis, Firas Kontar. Je ne sais pas si je vais vous poser exactement la question de la même manière, c'est-à-dire non pas de savoir si le régime syrien a déjà gagné la guerre ou est en passe de la gagner, mais est-ce que, puisque vous faites partie de l'opposition syrienne, est-ce que l'opposition syrienne est encore en mesure, aujourd'hui, pour vous, de gagner cette guerre?
Alors, si vous voulez, militairement parlant, aujourd'hui, la rébellion ne peut pas gagner cette guerre si, effectivement, les jeux dans la région des grandes puissances ne changent pas. Aujourd'hui, on a un échiquier qui est défavorable, l'absence totalement de l'administration américaine dans la moindre décision, l'absence de l'Union européenne, l'absence de l'OTAN. Et qu'on n'a jamais eu aussi, en réalité, des alliés. Ça veut dire que Alep a été vendu. Depuis le début, les rebelles syriens n'ont pas bénéficié de soutien nécessaire. Un exemple tout bête, l'aviation qui a détruit et qui causait le plus grand nombre de civils, on n'a jamais bénéficié d'armes, ou les rebelles n'ont jamais bénéficié d'armes pour empêcher cette aviation, rien que pour empêcher une arme défensive de faire autant de dégâts et de détruire autant d'installations civiles, hospitalières, écoles et autres qu'on a vu. On a laissé en fait la destruction, c'est une destruction se faire devant nous, au su au vu. Monsieur Balanche l'a cité, ouais. En trois mois c'était plié, mais pourquoi Alep en trois mois c'était plié? Des bombardements massifs sur tout ce qui vit, que ça soit marché, que ça soit école, que ce soit maternité, que ça soit hôpitaux. Comment vous voulez que les rebelles ne pouvaient plus avoir le soutien de la population, et comment vous voulez que la population puisse survivre dans des conditions comme ça?
Mais
ça aurait été irresponsable.
Si l'opposition ne peut plus gagner la guerre, c'est donc le régime syrien, lui, est en passe de le faire.
Mais pourquoi aujourd'hui le régime syrien est en passe de le faire, ou est là, le présent du régime syrien? C'est parce que ses parrains le veulent bien, le iranien et le Poutine. Sans l'Iran et sans Poutine, Assad serait parti en 2012. En 2012, la route de l'aéroport a été coupée. La capitale syrienne était encerclée. Et c'est Obama, qui était en pleine négociation avec les Iraniens, qui a demandé qu'on stoppe l'offensive pour permettre des négociations sur le dossier nucléaire iranien. Donc les Syriens ont payé en fait un lourd tribut dans les concessions qu'on a fait à beaucoup de puissances étrangères pour en arriver au final à cette situation-là où Poutine a pris les devants, et que la communauté internationale, les démocraties, l'Occident n'a rien fait face à cela.
Alors justement, parlons de ses parrains et parlons en particulier de Vladimir Poutine. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, après avoir considérablement aidé le régime syrien, Manon Nour-Tanous, on peut même dire que c'était il y a 2 ans, les premiers bombardements aériens, c'était quasiment à la même période, le régime a été sauvé par la Russie. Est-ce que la Russie n'est pas en position de force aujourd'hui pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire tenter d'élaborer une solution politique? Est-ce que ça n'est pas ce qu'elle était en train d'essayer de faire?
Oui, absolument. Avant d'aborder la question russe en une phrase, si on dit que le régime a gagné, j'apporte un nouveau bémol, ça donne l'impression d'un régime fort qui, je crois, encore une fois, est erroné. C'est un État fantoche qui est entièrement dépendant de ses parrains, au premier rang desquels les Russes, donc qui sont aussi ceux qui prennent la majeure partie des décisions avec les Iraniens. Donc ce mythe de l'État fort, qui vient aussi de l'expérience irakienne et libanaise qu'on peut avoir dans la région, je pense qu'il faut vraiment s'en défaire. On n'est pas face à un régime fort qui peut être un allié, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme. Sur la Russie, qui, elle, a fait le choix de s'investir directement pour se donner les moyens d'arriver à une solution politique qui lui convienne, La solution politique en question a peu à voir avec la Syrie. Le programme défendu par Poutine, c'est pas d'ingérence dans les affaires internes, pas de changement de régime, que la responsabilité de protéger ne puisse pas être invoquée pour renverser des régimes ou pour soutenir des opposants à ces régimes-là. Donc peu à voir avec le contexte syrien en soi. Il se trouve que c'est en Syrie, évidemment, que ça s'est appliqué.
Il y a quand même l'idée aussi manifestement de tenter de reconstruire une opposition, alors qu'il n'est peut-être pas une opposition qui correspond à celle à laquelle participe Firas Kontar. Je vais vous donner la parole dans un court instant, mais en tout cas cette idée que bah, essayer de renouer un dialogue entre justement le régime syrien et ses
une
opposants.
Une opposition fréquentable. Oui, les Russes ont essayé de construire une opposition qui serait compatible avec le régime, au sein de laquelle quelques ministres pourraient être intégrés au gouvernement actuel. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est pas ça la transition politique qui est dans la résolution 2254 de l'ONU de décembre 2015. Juste une précision sur la politique russe, elle a été constante et elle a visé, en fait, on le voit aujourd'hui, à mettre à l'écart les Occidentaux, ce qui a été relativement aisé du fait de leur manque d'investissement.
Oui, ils sont mis un peu à l'écart tout seuls aussi, hein.
Oui, et dans les négociations actuelles qu'on voit à Astana, on voit très bien qu'on a les Russes, les Iraniens, les Turcs, les Occidentaux ne sont plus présents, et les Russes font en sorte d'épuiser tous les autres canaux de négociation. Donc Genève, que l'émissaire de l'ONU essaye de remettre à flot pour une 8e session, apparaît comme secondaire. Or, je crois que c'est véritablement dans le cadre de Genève qu'il faudra revenir à la table des négociations.
Firas Kontar, on parle aujourd'hui d'une Pax Putina pour qualifier justement cette initiative, ces initiatives du président russe pour tenter justement, après la question militaire, d'amorcer une solution politique. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui mérite d'être encouragé?
La seule vision de Poutine pour la résolution du conflit, c'est la vision à la mode tchétchène. On laisse un seigneur de guerre à la tête d'un État. Est-ce que c'est viable pour la Syrie avec 23 millions d'habitants, ce qui est viable en Tchétchénie pour 700 000 habitants? Non. Aujourd'hui aussi, on est dans un... Ce que Poutine veut, c'est réhabiliter Assad. Sauf qu'on est dans une crise...
Est-ce qu'on en est sûr, ça?
Aujourd'hui, il donne aucune autre porte d'ouverture. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est laisser Assad. Il ne laisse aucune autre possibilité de négociation. Et on le voit. Sauf qu'aujourd'hui, quelle opposition, en dehors de l'opposition compatible avec la Russie, quelle opposition accepterait que quelqu'un qui a tué 200 000 de ses compatriotes, quelqu'un qui civil, quelqu'un qui détient dans ses geôles 200 000 encore Syriens, dont, je ne pas oublier, deux Français dont on ne parle jamais, Mazen Dabar, qui était mon CPE à l'école française de Damas, est détenu dans les geôles du régime syrien, et son fils. Mais ils sont détenus par le régime syrien, donc ceux-là, on n'en parle pas, contrairement à tous les détenus ou les otages Daesh. Vous voyez, c'est là aussi le gros problème, c'est qu'il y a une réhabilitation de ce régime qui ne dit pas son nom, par beaucoup d'éléments, mais on ne peut pas, nous, moi, je ne vois pas de partenaire syrien de l'opposition, enfin ce que j'appelle opposition, qui est opposant aujourd'hui en Syrie. Ce sont tous ceux qui appellent juste à un espace de liberté pour le peuple syrien, juste à pouvoir choisir une voie dans la gestion du pays. Voilà ce que c'est qu'un opposant traité de terroriste comme je le suis. Moi, je suis interdit aujourd'hui de rentrer en Syrie, il faut le savoir, mon père est interdit, toute ma famille est interdite de rentrer en Syrie, je n'ai pas pris les armes, je n'ai rien fait, sinon de dire arrêtez le massacre, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà comment on me traite de... Mais qui, comme de la société civile syrienne qui n'a pas pris les armes, est prêt aujourd'hui à signer un accord de paix avec celui qui a tué, qui a massacré, qui a bombardé, qui a détruit son pays? Je ne vois pas. Personne n'est en mesure aujourd'hui de signer. Et on sait que c'est caduque. Ça ne peut pas être possible et ça ne tiendra pas.
Donc ce que vous nous dites, Firas Kontar, c'est qu'à supposer que les efforts, que les initiatives de la Russie soient sincères, en tout cas ce sont des efforts qui sont vains. Fabrice Ballanche, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ces très fortes initiatives russes?
Oh ben oui, ça a été dit, hein, le processus de Genève, la Russie s'en est servie pour gagner du temps et pour le tuer au profit de celui d'Astana. La différence entre Astana et Genève, c'est qu'à Genève, on a fait venir des opposants politiques qui avaient très peu de poids sur le terrain. Hein, la coalition nationale syrienne, que beaucoup de Syriens de l'intérieur appellent coalition nationale Sheraton, parce qu'ils pensent qu'elle se moque un peu d'eux et qu'elle passe plus de temps dans les grands hôtels qu'à...
Inutile de reprendre les éléments du régime syrien, la propagande du régime syrien.
Mais à Astana, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont fait venir des rebelles, les chefs rebelles. Donc avec eux, des gens qui avaient vraiment de l'influence sur le terrain, des militaires, avec lesquels ils ont négocié. Et ça, bon, le deal il était clair, hein, soit vous soumettez et on vous cooptera dans le pouvoir, dans le prochain pouvoir, on vous laissera bénéficier de l'argent que vous avez accumulé pendant la guerre, parce qu'il y a beaucoup de chefs rebelles qui sont des trafiquants, hein, il faut pas se leurrer, hein, la famille Alouche de Jaych el-Islam, ils gagnent beaucoup d'argent en mettant la main sur tout le trafic à destination de leur zone.
Fabrice Balanche, par rapport aux négociations d'Astana, donc Russie, Iran, Turquie, un des objectifs, c'était de faire baisser le niveau des hostilités en mettant en place des zones de désescalade. Est-ce que du point de vue de ces objectifs-là, vous considérez que c'est des objectifs qui sont plutôt atteints aujourd'hui?
Bah, ils sont atteints, oui, parce que dans le sud de la Syrie, maintenant, il y a quasiment un cessez-le-feu. Dans la périphérie de Damas également. Mais c'est parce que c'est beaucoup de groupes rebelles ont le couteau sous la gorge. Soit vous soumettez, soit on vous écrase. Vous avez vu ce qu'on a fait à Alep. Vous avez vu de quoi on est capable. Donc, on ne plaisantera pas avec ça. Donc, la désescalade, si vous voulez, c'est une désescalade par la peur. Et par la cooptation de certains groupes, mais pas dans le but de réduire la violence pour réduire la violence, si vous voulez. C'est dans le but de gagner du temps pour ensuite passer à l'offensive et éliminer les rebelles récalcitrants, parce que l'armée syrienne et ses alliés ne peuvent pas se battre sur tous les fronts à la fois. Et ça fonctionne, parce que l'Occident, de toute façon, il se désintéresse de l'affaire syrienne, et on ne veut pas voir se développer, après Daesh, Al-Qaïda en Syrie. Donc on va faire en sorte de participer à l'élimination également d'Al-Qaïda.
Une désescalade imposée par une forme de terreur par les Russes, avec d'autres projets derrière. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez les choses, Manon Nourtanous? Déjà, est-ce que cette désescalade, vous considérez qu'elle existe aujourd'hui, au moins dans les zones qui ont été repérées dans le cadre des négociations d'Astana?
Oui, dans les zones soumises à la désescalade, il y a une diminution effective de la violence. Maintenant, évidemment, elle correspond au projet politique défendu par les Russes et par l'Iran, et on se rend compte qu'elle profite aux formes du régime, et paradoxalement aussi, en fait, aux forces djihadistes, notamment au sud du pays, ce qui est un des motifs d'inquiétude d'Israël. Il y a eu une réaction israélienne récente et des contacts entre les Israéliens et les Russes, qui parlait d'une inquiétude de l'activité de groupe au sud du pays, que les zones d'escalade n'empêchaient pas d'émerger. Et puis surtout, ça renforce évidemment l'Iran à la frontière israélienne, ce qui là aussi est une ligne rouge pour les Israéliens. Donc ça renforce des acteurs de terrain qui ont eu la chance d'être partis aux négociations à Astana. Mais il faudra voir comment ça se traduit, encore une fois, lorsqu'on parlera du pouvoir central à Damas.
Ce que disait Fabrice Balanche, de dire ils font pas baisser la violence pour faire baisser la violence, c'est qu'il y a un projet derrière. Vous êtes d'accord avec ça, ou bien est-ce qu'on peut aussi défendre l'idée qu'il y a une vraie volonté sincère de la part de la Russie de mettre un terme à ce conflit et de sortir avec une solution politique?
Je crois que la Russie a tout intérêt, en tout cas, à geler le conflit, à glacer la violence. Cependant, je pense qu'elle n'a pas de projet politique de long terme. Ce qui, à mon avis, est une ouverture pour les Occidentaux pour revenir peut-être dans une logique de négociation avec un projet qui a toujours été absent dans leur politique jusqu'à maintenant. Mais quand on va arriver aux questions politiques, on retrouve un certain poids face aux Russes qui n'ont pas de projet réel, ni convaincant, ni durable, ni capable en fait de stabiliser le pays. Maintenir le Bachar al-Assad à Damas n'apporte aucune réponse sur le soulèvement de 2011, sur la libération des prisonniers, sur le retour des disparus, et puis sur la gouvernance des territoires qui vont être repris à Daesh en particulier.
Firas Kantar.
Oui. Alors, si vous voulez, ce qu'on voit dans tout conflit, pour gagner la guerre, il faut gagner la paix. Dans tout conflit, il nous faut une phase de transition. Sauf qu'aujourd'hui, même Assad n'en veut pas. Même s'il voulait, je dirais, pacifier la situation, il n'en veut pas de cette phase de pacification. La situation, pour lui aujourd'hui, elle sera éternellement la lutte contre le terrorisme, entre guillemets. Donc, une éternelle guerre contre... C'est ce qui va lui permettre aujourd'hui de survivre. Vous savez, dans son discours du 21 août, très important, où il annonçait sa victoire, il a quand même dit que, en fait, l'avantage de cette guerre, c'est qu'elle a rendu la société syrienne plus homogène. Donc, rien que ce mot.
Qui est quand même assez cynique.
Ce qui est assez cynique. C'est la victoire du fascisme, là, ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'il ne veut surtout pas aujourd'hui, c'est le retour des réfugiés, des 5 millions de réfugiés qui s'entassent en Turquie, au Liban, en Jordanie. Parce que tout ce qu'il a fait en destruction, c'était aussi dans le but de changer la démographie du pays durablement. C'est que le rapport de force démographique, j'entends là-dessus, où il y avait une majorité sunnite arabe de 60%, elle n'y est plus aujourd'hui. Et il ne veut pas que ça s'inverse. Donc, il ne veut pas surtout d'une pacification qu'il de toute façon ne pourra pas mener, et ça il le sait. Et aussi, les Russes aujourd'hui, ils sont aussi dans un dilemme, quel projet, et ils n'en ont pas effectivement, je rejoins les paroles de ma collègue, parce que là-dessus...
Peut-être parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, c'est-à-dire qui serait en mesure de remplacer, disons, Bachar al-Assad.
Est-ce que si je vous donne aujourd'hui des noms de Syriens, est-ce que ça va vous parler? Cette histoire de personne qui est là pour le remplacer, c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a un pouvoir qui n'a jamais voulu rentrer dans une phase de transition comme l'imposaient les résolutions de l'ONU.
Et qui reste d'ailleurs peut-être, Firas Kontar, d'être d'autant moins disposé aujourd'hui à le faire, que cette question du départ de Bachar al-Assad, qui était posée comme un préalable par un certain nombre de pays, dont la France, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même approche. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron sur BFM TV. C'était le 19 septembre dernier, quelques jours avant qu'il fasse son discours, comme tous les chefs d'État, à l'Assemblée Générale de l'ONU.
Quels sont mes objectifs pour la Syrie? Préserver les frontières actuelles et l'intégrité de l'État syrien. Je pense que dans la région, on ne fait rien de bien avec un État failli. Deuxième point, réussir à avoir une stabilité politique et donc un caractère inclusif dans la réponse politique qui est apportée. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être le régime de Bachar al-Assad dans la durée qui s'installe, mais qu'il faut construire les conditions d'une transition politique où chacune et chacun y trouvera sa place. Et troisième point, dans la durée, éradiquer le terrorisme, donc donner les moyens d'une stabilité durable. Je l'ai dit, pour ce qui est de Bachar al-Assad, c'est un criminel. Il devra être jugé et répondre de ses crimes devant la justice internationale, mais je n'ai pas fait de sa destitution un préalable par pragmatisme, parce que nous avons fait de sa destitution un préalable depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis 2011, sans aucun résultat. Donc nous devons, par pragmatisme, avancer et construire cette solution politique.
Bachar al-Assad est un criminel, mais par pragmatisme, il ne faut plus faire, enfin en tout cas je ne fais plus, nous dit Emmanuel Macron, de son départ, un préalable, Manon Nourtanous, ça change quand même beaucoup de choses, en tout cas au moins du point de vue de la position française, a priori.
Ne pas faire du départ d'Assad un préalable, c'était déjà la position de François Hollande à la fin de son mandat, en fait.
Et... Ah bah, vous voyez, je ne l'avais pas noté. Moi, j'étais resté sur ses premières positions, lorsque notamment Laurent Fabius était au Quai d'Orsay.
Oui, où il y a eu une position un peu moralisante qui a en fait porté préjudice à la voix de la politique française, qui avait en fait un diagnostic juste, mais le départ d'Assad devait arriver à l'issue de négociations. C'était la position française depuis la fin donc du mandat de François Hollande. Ce que dit Emmanuel Macron ici, c'est que effectivement, par réalisme politique, et là encore je crois que le constat est juste, la présence du dictateur syrien à Damas ne sert pas les intérêts français, même si on prend en compte le fait que la priorité de la France est de lutter contre le terrorisme et contre les réfugiés. Donc le maintien du régime à Damas attise ces deux phénomènes. Dans un discours précédent, Emmanuel Macron disait toutefois qu'on ne lui avait pas présenté le successeur légitime d'Assad. Ce qui pose un peu encore, on est dans un mythe, le mythe du remplaçant.
Voilà ce que nous disait Firas Kontar. Hein, voilà.
Oui, c'est ça. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome de Gaulle. On cherche un opposant qui serait susceptible de remplacer ce dictateur à Damas. Or, la logique est réellement de peser suffisamment pour qu'à l'issue de négociations politiques, une transition puisse être engagée et que le processus de sélection d'un nouveau dirigeant soit permis par les Syriens. Si on cherche le remplaçant d'Assad, on n'a pas compris la logique de 2011, qui est une révolution véritablement par le bas. Et je pense qu'il y a déjà une évolution dans les premiers mois de la présidence d'Emmanuel Macron sur ce terrain-là.
Fabrice Ballanche, sur cette position qui est celle de la France et du président français aujourd'hui par rapport à la Syrie.
Oui, bah la France revient de loin, parce qu'elle a quand même été avec Laurent Fabius à la tête de l'opposition anti-Assad. On ne voulait pas absolument discuter avec lui, il fallait qu'il parte, etc. Bon, Aujourd'hui, quand même, on a un peu plus de réalisme dans la diplomatie française. Mais vous savez, quel poids aujourd'hui a encore la France dans l'affaire syrienne? Est-ce qu'on est à Astana? Est-ce qu'on est... Nous, on ne discute pas. Enfin, je veux dire, on est complètement hors jeu.
On est quand même au Conseil de sécurité de l'ONU, où il y a quand même une résolution qui a été votée, qui peut être aussi une base de discussion, la 2254, je crois, enfin, en tout cas, qui est présentée comme celle à partir de laquelle les négociations peuvent se faire. Enfin, il manque peut-être juste une volonté politique pour que le cadre onusien redevienne le cadre, légitime de la résolution du conflit syrien, non?
Vous savez, la France a, avec d'autres pays, ont voulu au Conseil de sécurité faire des propositions, enfin faire voter des résolutions très dures contre la Syrie. Les Russes, les Chinois ou les Russes seuls se sont opposés et rien n'est passé. Donc on peut faire voter des résolutions par l'Assemblée générale, elles ne sont pas contraignantes. Par le Conseil de sécurité, elles ne passeront jamais. Après, si on n'a pas sur le terrain des groupes, des alliés militaires qui peuvent faire effet de levier, je vois pas très bien qu'est-ce que peut faire la France. Une solution politique, mais les Russes, ils en ont une, c'est le maintien de Bachar el-Assad avec quelques accommodements. C'est se partager en fait la Syrie avec les Iraniens, protectorat russo-iranien sur le pays. Effectivement, la question du Golan inquiète Israël, mais les Russes ont déjà déployé des troupes pour faire tampon entre le Golan et les Iraniens. Poutine se rend ainsi indispensable à la fois en Syrie, à la fois dans le conflit israélo-arabe grâce au Golan. Non, ils ont un plan bien établi et de toute façon, il n'y aura pas de négociation avec l'opposition syrienne, malheur aux vaincus. Effectivement, beaucoup de gens qui sont à l'extérieur vont y rester, notamment tous les opposants, parce que évidemment le gouvernement syrien n'a pas envie qu'il rentre. Je pense même qu'il y aura de nouvelles vagues de départ lorsque les dernières zones rebelles seront reprises. Et puis vous avez un régime qui va quand même sortir renforcé, à mon avis, à terme de ce conflit, parce qu'il y a toute une nouvelle génération d'officiers dans l'armée, dans les groupes paramilitaires, dans les milices, etc., qui ont émergé et qui, eux, ont gagné leur galon au combat. Contrairement à tous ceux qui participaient à la cour du régime, je pense comme quelqu'un comme Manaf Atlas par exemple, qu'on présentait comme un éventuel successeur parce qu'il était général et sunnite dans l'armée syrienne, mais qui en fait était un golden boy. Tous ces gens-là, ils sont éliminés au profit d'une nouvelle vieille garde, si vous voulez, qui elle ne sera pas encline à des réformes économiques libérales et même politiques.
Firas Kantar, pour revenir, et on est quasiment au terme de cette discussion, au propos d'Emmanuel Macron et cette position française, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on puisse, dans la même phrase, dire à la fois Bachar el-Assad est un criminel et son départ peut être envisagé, mais en tout cas, ça n'est plus une condition préalable, ça n'est plus une obligation.
Je voudrais qu'on... Où est-ce qu'on est prêt à aller dans le pragmatisme? Question. Est-ce qu'en avril 1945, on était prêt à dire... Hitler sera l'homme de la transition. On sait aujourd'hui qu'il y a des camps de concentration en Syrie, notamment prison de Mezeh et Sednaya. Est-ce que le pragmatisme doit nous pousser, nous, à accepter l'inacceptable? À accepter qu'un criminel contre l'humanité, qui est qualifié, qui a tué bien plus avec des armes conventionnelles et sous la torture que des armes chimiques, reste au pouvoir? Nous, en France, Nous menons une guerre contre le terrorisme de Daesh parce qu'on a eu 200 ou 300 malheureux citoyens syriens qui sont français qui sont morts. Et nous voulons faire accepter à tout un peuple que le régime qui a tué le plus de citoyens syriens à travers le monde, le régime qui a tué plus d'innocents que tous les groupes terroristes de la Terre, on veut qu'il reste à la tête de ce pays. Mais comment pouvons-nous imaginer que les Syriens, qui sont 5 millions aujourd'hui, qui ne sont pas prêts à rentrer, puissent rentrer? Et quel pays, aujourd'hui, si le plan de Moscou, comme l'annonçait M. Balanche, est en place, quel pays il va gouverner? Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'infrastructure. Et ces 5 millions qui sont partis, c'est beaucoup des jeunes, ce sont les forces vives un peu de la Syrie qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps tout autour. Qu'est-ce qu'on construit pour ce pays, pour cet avenir-là? Donc, ce cynisme est interpellant. Comment pouvons-nous aujourd'hui tenir ce discours de pragmatisme. Devions-nous être pragmatiques face à Hitler? Et pourtant, Bachar al-Assad n'est plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il est sous occupation. Et sa présence permet juste de légitimer l'occupation iranienne et l'occupation russe. Ce n'est plus aujourd'hui une armée. Il n'y a plus d'État, c'est une milice et c'est des seigneurs de guerre qui gouvernent la Syrie.
Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter ce soir. Merci beaucoup, Firas Contard. Merci à Fabrice Balanche d'avoir été au téléphone depuis Washington. Merci, Manon Nourtanous. Je rappelle le titre de votre livre publié la semaine prochaine. Ce sera mercredi au PUF. Chirac, Assad et les autres. Les relations franco-syriennes depuis 1946. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny.